Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous avions commencé notre méditation dans Jean chapitre 11 et nous continuons donc avec Jean chapitre 11 aujourd'hui pour voir un miracle surprenant. Nous avions déjà commencé avec les 16 premiers versets et je vous invite à prendre donc Jean chapitre 11, nous reprenons la lecture au verset 1. Jean chapitre 11 verset 1. Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui roignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il ne voit point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous en semble ? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Voilà. Eh bien, nous avions vu la dernière fois les 16 premiers versets, un miracle vraiment surprenant. On apprend à Jésus que Lazare, qu'il aime avec Marthe, sa sœur, est malade. Et voilà, il nous est dit au verset 5, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Surprenant pour quelqu'un qui aime Marthe et sa sœur et Lazare. Mais le Seigneur Jésus sait ce qu'il fait. Il suit le calendrier de Dieu. Et nous avons vu que des fois, eh bien, Dieu retarde son intervention. Dieu n'agit pas comme les hommes, il retarde son intervention parce qu'il veut nous faire encore plus de bien. Et vous voyez, au verset 15, il dit au verset, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Voilà. Il faut savoir aussi que le Seigneur n'a pas tardé à aller se rendre chez Lazare afin qu'il meure. De toutes les façons, la personne qui est venue lui apprendre la nouvelle a pris à peu près 1 jour pour venir lui donner le bulletin de santé. Le Seigneur aurait pris 2 jours pour se rendre près de chez Lazare. Il aurait fallu encore 1 jour et finalement, il serait arrivé, Lazare serait déjà mort. Donc, le Seigneur sait ce qu'il fait et il veut nous faire grandir dans la foi quand il permet, quand il ne répond pas tout de suite. Et donc, nous entamons la deuxième partie de notre... nous commençons au verset 17. Et on voit que Jésus étant arrivé, donc je vois le verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Eh bien, Quand on lit ce passage, on se rend compte que là, il y a une situation dramatique. Lazare est mort, il est au sépulcre déjà depuis 4 jours. Et Marthe qui lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, ce n'est pas un reproche qu'elle fait à Jésus, c'est le chagrin qui lui fait parler comme ça. Et on voit que face à une situation dramatique, Jésus console en attirant l'attention sur lui. Voilà. Le verset 17 donc, nous place devant un drame. Lazare est mort déjà depuis 4 jours. C'est la perte d'un être cher, d'un être aimé. On ne peut pas revenir en arrière quand la mort est là. Et devant une telle situation, la famille a besoin d'être consolée. Et beaucoup de Juifs viennent consoler Marthe et Marie. Et vous savez, dans les moments de deuil, on aime voir certaines personnes auprès de soi, on aime les avoir auprès de soi parce qu'il y a des liens d'amitié forts qui nous relient avec ces personnes et elles pourront nous consoler. Eh bien, on voit que Jésus, le grand ami, arrive enfin et Marthe va à sa rencontre. Et quand nous avons lu le récit, vous voyez que Marthe et Marie ont deux tempéraments différents. Marthe, c'est la fougueuse. Et dans Luc, Marthe s'agitait à préparer le repas et le Seigneur lui a dit « Mais Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. » On revoit ce caractère-là. Marie est beaucoup plus posée. Eh bien, Marthe, la première, va voir le Seigneur et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et donc, ces paroles expriment plutôt du chagrin que du reproche. C'est sa tristesse qui l'a fait parler comme ça. « Ah seulement, Seigneur, si tu avais été là, tu aurais guéri mon frère et il ne serait pas mort. » Et Marthe va même ajouter, pour que Jésus n'interprète pas ses paroles comme un reproche, elle lui dit, Marthe, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe confesse la toute-puissance de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'attend à ce que Jésus ressuscite son frère maintenant. Le récit montre qu'elle attend plutôt que Jésus ressuscite son frère plus tard, au jour de la résurrection. Voilà. Quand on lit au verset 27, elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et au verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais le Seigneur ne veut pas attendre le dernier jour. Il veut ressusciter Lazare maintenant pour affermir la foi des disciples, pour glorifier et lui et son père, et aussi pour que le cours du temps avance et que les Juifs aient encore plus de haine envers lui. Voilà. Et donc, Marthe ne s'attend pas à ce que Jésus ressuscite son frère maintenant. Et Jésus va la rassurer au verset 23 quand il va dire, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Il veut dire qu'il va ressusciter Jésus aujourd'hui et pas plus tard. Mais Marthe ne comprend pas ces choses. Pour Marthe, Jésus veut la consoler en lui disant que, eh bien, oui, Lazare va ressusciter plus tard, à la fin des temps. Mais le Seigneur veut au contraire qu'elle croit, au verset 23, au verset 24, « Je sais, c'est Marthe, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Mais le Seigneur va lui dire, au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Eh bien, il faut savoir que la résurrection au dernier jour était déjà annoncée dans l'Ancien Testament, dans Job, dans le psaume 16, verset 10, dans Daniel aussi, chapitre 12, verset 2, l'Ancien Testament enseigne déjà la résurrection des corps. Les pharisiens aussi croyaient à la résurrection des corps, mais pas les sadducéens. On peut juste prendre Matthieu, non, ce sera trop loin à lire, Matthieu chapitre 22. Dans Actes aussi, chapitre 23, versets 6 à 8, on voit que eh bien, les pharisiens croyaient à la résurrection des corps, mais pas les sadducéens. On voit aussi que Jésus, dans Jean, on peut prendre Jean, chapitre 5, enseigne la résurrection des corps. Jésus, Jean chapitre 5, on peut prendre ça, c'est pas trop loin. Jean chapitre 5, verset 21, et puis 25. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et au verset 25 à 29 aussi, en vérité, toujours dans Jean chapitre 5, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà, le Seigneur enseigne la résurrection des corps, les uns pour le jugement, les autres pour la vie éternelle. Ainsi, Marthe qui sait ça, Marthe est une croyante, elle croit à la résurrection des corps, elle croit que Jésus a le pouvoir de ressusciter ton frère, mais pas tout de suite, dans un avenir lointain. Il ne lui vient pas à l'esprit que Jésus peut ressusciter son frère immédiatement et qu'il va le faire. Et voilà que la conversation, on revient dans Jean, chapitre 11, verset 25, voilà que la conversation va prendre un tournant, une autre tournure, des versets 25 à 26. On aurait attendu que Jésus lui parle autrement, mais voilà ce qu'il dit, Jésus, au verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jésus ne parle plus de la douleur de Marthe, ou de la mort de Lazare, ou de la résurrection finale. Jésus n'apporte pas non plus la consolation qu'on attendrait dans cette situation. Voilà, Jésus aurait pu dire, « Oui, ma sœur, ne crains pas, il y aura une résurrection à la fin. Sois consolé, Dieu va ressusciter ton frère à la fin des temps. » D'une façon surprenante, d'une façon étonnante, Jésus parle de lui-même. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyons-nous cela, nous? Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre là? Eh bien, on voit que Jésus dit deux choses. La première, je suis la résurrection. Et l'explication suit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quand il dit je suis la résurrection, ça veut dire que Jésus a la puissance de ressusciter les morts. Il a ce pouvoir-là. Celui qui place sa confiance en Christ, celui qui place sa foi en Jésus-Christ, connaîtra la vie après la mort, parce que Jésus a le pouvoir de le ressusciter. La mort n'aura pas le dernier mot. La mort ne sera pas la fin de tout. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt physiquement, car le Seigneur le ressuscitera au dernier jour. Voici la première vérité que Jésus dit, « Je suis la résurrection ». Donc, ça, quand on a des moments difficiles, voilà, on doit se rappeler ce que Jésus a dit, ce qu'il est. Il est la résurrection. Et la deuxième chose qu'il dit, il n'est pas seulement la résurrection, « Je suis la vie. Et quiconque croit en moi, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je suis la vie parce que Jésus accorde la vie éternelle. Et dans cette vie, aujourd'hui, c'est dans ce temps où nous sommes vivants sur cette terre que l'on peut recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort. Après la mort vient le jugement. Il y a un choix à faire maintenant. Il y a à croire maintenant qu'il est à la fois la résurrection et qu'il est la vie. Qu'il ressuscite après la mort et qu'il donne la vie éternelle aujourd'hui à quiconque croit en lui. Jésus accorde donc la vie éternelle et c'est maintenant que l'on peut mettre sa confiance en lui. C'est en plaçant sa foi en Jésus-Christ, qu'on reçoit la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est la vie qui n'a plus de fin. Le croyant peut connaître la mort physique, et nous mourrons tous un jour, croyants et incroyants. Mais la mort physique ne peut pas mettre fin à la vie éternelle, c'est-à-dire la vie spirituelle. Le croyant ne mourra jamais spirituellement. On peut prendre Jean 3,16. C'est Jésus qui parle à partir du verset 14, Jean 3, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut tourner dans Jean, chapitre 6, verset 50. On commence au verset 46. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Manger, ça veut dire croire, bien sûr. Voilà, il est la vie éternelle et donc il la donne à tous ceux qui croient. Marthe a déjà confessé sa foi en la résurrection finale, mais Jésus l'encourage à croire en quelque chose de plus grand encore. Non seulement il y a la résurrection au dernier jour, la résurrection finale pour tous ceux qui croient, mais le seul qui sera en mesure de l'offrir, c'est celui qui est devant elle. C'est celui qui lui parle, celui qui lui déclare « Je suis la résurrection ». J'avais rencontré une fois quelqu'un en Martinique, je lui disais, mais au sujet de la vie après la mort, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça va se passer pour toi? Et cette personne, qui était une catholique, mais pratiquante, et qui avait la foi dans les Écritures, me disait, mais il a dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, et ma foi est en Jésus-Christ. Alors, qu'ai-je à craindre? Jésus est le seul qui peut donner la résurrection, la vie éternelle. Nos bonnes œuvres, notre religion, notre argent ne peut pas nous faire gagner la vie éternelle. C'est Jésus seul qui peut la donner. Et vous savez qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute, crois-tu cela? Il ne demande pas à Marthe si elle est sur le point de, si elle croit qu'il est sur le point de ressusciter son frère. Le Seigneur lui demande de croire qu'il est la seule source de résurrection et de vie éternelle. Et Marthe répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde. » Le verset 27. Elle croit qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui que Dieu doit envoyer, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est égal à Dieu, qui devait venir dans le monde, bien sûr, pour sauver le monde. Donc, Jésus n'encourage pas Marthe en lui rappelant les grandes vérités fondamentales de la foi. Jésus encourage Marthe en focalisant l'attention sur lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, chers amis, dans les moments où nous éprouvons une grande perte, où nous passons par la souffrance, nous avons besoin de la réalité de Dieu lui-même, manifestée en la personne de son Fils. Nous devons focaliser notre attention sur lui, tant pour la vie présente que pour la vie à venir. Ça a été le cas de David, dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Ça a été le cas d'Abraham, on peut prendre Abraham, Romains chapitre 4, qui ont tous focalisé leur regard sur Jésus. Romains chapitre 4, pour voir que dans les moments compliqués, dans les moments où nous ne comprenons pas tout, dans le moment de grande perte, nous devons focaliser notre attention sur le Seigneur. Romains chapitre 4, verset 20 à 31. On peut commencer au verset 19 et vous vous rappelez qu'Abraham lui avait été donné cette promesse qu'il aurait une postérité à nombreuse, mais il ne voyait rien venir, pas d'enfant. Il prenait de l'âge, lui et sa femme. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Tout semblait s'effondrer, mais qu'est-ce qu'ils nous dit au verset 19, Romains chapitre 4, verset 19? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà, Quand tout semble noir, eh bien, nous devons fixer, nous focaliser sur lui, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. C'était le cas d'Étienne aussi. Étienne, en Actes chapitre 7, on peut tourner nos pages. Actes chapitre 7. Qui a versets 54 à 59. Voilà, les Juifs étaient époustouflés par la sagesse d'Étienne. Et au verset 54 du chapitre 7 des Actes, on entendra ces paroles. Ils étaient furieux dans leur cœur. Peut-être qu'on peut reprendre les paroles au verset 51. C'est Étienne qui parle aux Juifs. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposant toujours au Saint-Esprit, ceux que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Voilà, Étienne aussi qui regarde. On peut tourner vers le Seigneur dans ces moments critiques. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 24 à 25. Voilà. On peut commencer au verset 22. Donc, ils sont à Philippe, ils sont roués de coups. Donc, acte chapitre 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, c'est-à-dire contre Paul et Silas. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Et on sait là, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà, Paul et Silas, dans des moments difficiles, avaient besoin de cette réalité de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, vers le milieu de la nuit, dans la douleur de leur corps, avec les chaînes aux pieds, les ceps aux pieds, et en prison, eh bien, on voit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils avaient les regards fixés sur le Seigneur, focalisés sur lui, parce qu'ils savaient finalement que Dieu, leur vie était dans la main de Dieu. Et c'était la consolation suprême. Donc nous aussi, Paul aussi, hein, quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. » Et Paul qui se glorifie davantage de la puissance de Dieu, voilà, que dans la faiblesse. Eh bien, voilà, dans ces moments où nous éprouvons une grande perte, comme Marthe et Marie qui ont perdu leur frère, le Seigneur nous demande de focaliser toute notre attention sur lui, pour tous nos besoins, pour la vie présente et pour la vie qui à venir. Alors, il est intéressant de voir comment Jésus, au verset 28 à 44, on ne va pas tout lire, comment Jésus réagit face à la mort de son ami. On va lire quelques versets, on prend au verset 28. Alors, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et elle dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Voilà, on voit que Jésus pleura. Jésus fut ému, au verset 33. Et en fait, le « fut ému », là, le grec dit que Jésus fut indigné devant la mort de Lazare, devant toutes ces personnes qui pleurent à cause de la mort, Jésus est indigné. Et pourquoi Jésus est indigné? Jésus n'est pas indigné, Jésus n'est pas bouleversé et indigné, Jésus n'est pas en larmes, Jésus ne pleure pas parce qu'il se sent impuissant, comme quelqu'un qui voit la mort là, qui est impuissant et qui est triste et qui pleure, qui est indigné, qui dit « je ne peux rien faire ». Non, Jésus n'est pas impuissant, il va accomplir bientôt un grand miracle. C'est pourquoi il est venu. Il a dit qu'il viendrait pour que la gloire de Dieu soit manifeste aux yeux des hommes, que la foi des disciples soit affermie, parce que la croix approche et il faut que la foi des disciples soit affermie par quelque chose de grandiose. Donc Jésus ne se sent pas impuissant, il va faire de grandes choses. Jésus n'est pas indigné parce qu'il se sent forcé aussi de faire un miracle. Il dit, ah mince, alors si j'étais là avant, j'aurais fait quelque chose, maintenant je suis obligé de le faire. Non, ce n'est pas pour cela. Jésus est venu précisément pour ressusciter Lazare. Donc il n'est pas, ce n'est pas les circonstances qui sont maîtres de lui, c'est lui qui est maître des circonstances. Il est venu de Galilée pour ressusciter Lazare, donc il n'est pas coincé, il ne se sent pas forcé, il est venu pour ça. Jésus n'est pas indigné aussi parce que son ami Lazare va lui manquer beaucoup. Pourquoi pleurez-vous si vous savez que vous avez ressuscité quelqu'un, vous allez le revoir? Ce n'est pas pour cela qu'il est indigné. Alors, pour comprendre pourquoi Jésus est indigné, pour comprendre pourquoi il est bouleversé, il faut nous rappeler comment la mort était vécue au 1er siècle. Dans nos jours, vous savez, quand quelqu'un est mort, tout cela se vit dans la discrétion, dans la retenue. On essaie de pleurer discrètement. On essaie de retenir ses larmes, de les essuyer, de rester calme. Dans la salle funéraire, on baisse la voix pour chuchoter. On laisse parfois la famille même dans l'intimité. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Les gens, au contraire, exprimaient fortement leur chagrin et pleuraient à toutes larmes. Ils criaient même. On engageait même des pleureurs professionnels pour remplir les moments de silence et faire couler encore plus de larmes. Donc, des gens étaient engagés pour pleurer et pour faire que tout le monde pleure. Les familles, même les plus pauvres, engageaient aussi des joueurs de flûte pour augmenter l'ambiance de tristesse. Donc, la tristesse se manifestait fortement et on incitait les pleurs, les larmes, les cris et tout cela à cette époque-là. Et ça se vit encore aujourd'hui dans certaines religions, chez les orthodoxes, chez les grecs, chez les amis musulmans aussi. Les gens pleurent et crient à l'heure de la mort. Donc Jésus voit toutes ces personnes qui pleurent, qui crient abondamment, qui se lamentent devant la mort et il est indigné. Il est tellement bouleversé qu'il se met aussi à pleurer. Pourquoi ? Eh bien, Jésus est indigné parce que la mort est un ennemi cruel, brutal, un ennemi qui engendre le malheur et la tristesse. Chaque fois que la mort frappe une famille, elle fait du mal et engendre la souffrance. Et si vous avez perdu un cher, vous savez que la mort fait ça. Elle nous rend tristes. Et Dieu n'a pas créé le monde ainsi au départ. Le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. Mais Dieu ne voulait pas cela. Il voulait une vie de communion avec les hommes, mais les hommes ont désobéi, le péché est entré dans le monde. Et donc, Jésus est indigné de voir la mort toujours à l'œuvre pour mettre la souffrance. Il s'indigne du péché aussi qui est la cause de la mort. Voilà ce qui l'indigne. Mais vous savez, il va ressusciter Lazare, montrant que lui aussi a la possibilité de ressusciter les croyants, montrant que lui aussi a la possibilité de ressusciter lui-même. Et il va vaincre la mort. Et c'est un encouragement pour nous. Regardons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Il faudrait lire ce merveilleux passage de 1 Corinthiens chapitre 15, mais on n'ira pas tout. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Car, on commence au verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Voilà, le Seigneur va... C'est un ennemi, la mort. Et on peut lire au verset 56, un peu plus loin. Même on peut commencer au verset 54. Lorsque ce corps, donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur va remporter la victoire sur la mort, le dernier ennemi. La mort, c'est le dernier ennemi ici-bas, mais la mort physique. Mais il y a une mort qu'il faut craindre davantage, c'est la mort spirituelle. Si on n'a pas fait la paix avec Dieu, il y a la mort physique et la mort spirituelle, l'éloignement éternel de Dieu quand on sera dans l'éternité. Mais pour les croyants, pour ceux qui ont placé leur vie dans celui qui est leur foi, par exemple, dans celui qui est la résurrection et la vie, eh bien, il y a une espérance parce qu'il y a un sauveur qui déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, lorsque le croyant est confronté à la mort, la tristesse le saisit d'une part. Il peut être indigné comme son Seigneur et nous sommes attristés quand la mort saisit nos proches. D'autant plus qu'ils sont proches de nous, la famille proche. Le croyant aussi est comme le Seigneur. Le Seigneur est un homme de douleur habitué à la souffrance et nous sommes aussi, même croyants, dans la tristesse quand nos proches décèdent. Mais, de l'autre part, nous pouvons être remplis de confiance parce que nous savons que Jésus est la résurrection et la vie et que la mort sera l'ennemi, le dernier ennemi qui sera vaincu par notre Seigneur. Et au verset 38, on revient à Jean chapitre 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus est encore indigné, profondément indigné. C'est en fait, quand il dit frémissant de nouveau, il faut... C'est le même verbe qu'au verset 33, il faut traduire qu'il est indigné. Voilà. Et Marthe ne croit pas que Jésus va ressusciter ton frère, puisque Marthe lui dit, mais il sent déjà, ce n'est pas la peine d'ouvrir le tombeau. Mais Jésus l'invite à croire. Au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voyez comment la parole de Dieu est efficace. Parce que là, eh bien, ils ôtèrent donc la pierre. Voilà, Marthe ne s'oppose plus à ce que le tombeau soit ouvert. Elle n'émet plus d'objection. Le Seigneur l'a rassuré, le Seigneur l'a fortifié. Et on voit, versets 41 à 42, le Seigneur qui dit, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus savait que Dieu allait réaliser, enfin lui aussi allait réaliser cette résurrection. « Tu m'as exaucé, ce n'est pas « tu m'exauceras ».« Tu m'as exaucé ». Et verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Voilà, Jésus fait une prière publique afin que tout le monde entende, tous ceux qui sont là entendent. C'est une prière adressée à Dieu, mais en même temps, c'est une prière qui a une fonction pédagogique, puisqu'il dit « afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé ». Toutes les personnes qui sont là vont assister au miracle. Et vont voir le miracle se produire. Mais seulement celles qui ont la foi vont croire que cela vient de Jésus. Et elles vont voir le reflet, la gloire de Dieu. Parce qu'elles vont croire dans la puissance de Dieu, dans la puissance du Seigneur Jésus. Verset 43. Ayant dit cela, donc, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On peut lire Jean chapitre 5, versets 28 à 29. On lit Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le Seigneur nous montre qu'à sa voix, les morts ressusciteront. Et certains disent que, heureusement qu'il a dit Lazare sort, parce que tous les morts auraient pu ressusciter lorsqu'il a parlé là d'une voix forte. Voilà, ce jour-là, c'était pour la résurrection de Lazare, mais au jour final, eh bien, Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Alors, ça, voilà un encouragement. Voilà un encouragement. Jésus, en face de la mort, est indigné, il est bouleversé, parce qu'il voit en elle un ennemi qui cause beaucoup de ravages, mais lui va apporter la solution. Il sait que cet ennemi, la dernière, sera vaincu. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ? Comment réagissent les hommes quand ils entendent, quand ils voient ce miracle ? Qu'apprenons-nous sur l'œuvre et la personne de Christ ? Eh bien, le récit nous apprend dans les derniers versets, versets 45 à 53, et vous avez vu comme moi, que certains ont cru, verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, ça c'est ceux qui croient, mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Et on voit que, voilà, il y en a qui croient et d'autres qui ne croient pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, vont s'assembler et vont monter un complot pour faire mourir Jésus. Remarquons aussi que, face à cette mort spirituelle, versets 45 à 53, Jésus donne la vie en mourant lui-même. Quand on lit toute la suite, on voit que les Juifs vont monter un complot pour faire mourir Jésus, pour le crucifier. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il nous est dit au verset 51, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Face à la mort spirituelle, Jésus donne sa vie pour le salut des âmes. On peut regarder dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et au verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est-à-dire la crucifixion du Seigneur pour la vie éternelle. Le récit nous rappelle que Jésus apporte un remède au péché et à la mort spirituelle en s'offrant lui-même comme victime expiatoire, versets 51 à 52. Pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, pour les païens. Jean chapitre 10, verset 16, il y a ceux qui sont, on peut lire Jean chapitre 10, verset 16, il y a ceux qui sont Juifs, qui sont de la bergerie, et puis, alors, Jean chapitre 10, verset 16, Jésus parle et dit, on peut commencer au verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix. » Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus va donner sa vie aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs. Alors les Juifs religieux là, vont prendre la décision de faire mourir Jésus, même sans le juger. La décision est déjà faite. Il faut qu'il meure. Ils veulent quoi ? Sauver la ville. Ils veulent sauver leur temple. Ils veulent sauver leur nation. Verset 48, c'est ce que nous lisons. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Et même, ils veulent sauvegarder leur petit pouvoir. Donc il faut faire quelque chose, il faut éliminer ce fauteur de trouble. Et l'exécution truquée de Jésus ne va pas sauver la nation, il ne va pas sauver la ville. Puisqu'en l'an 70, on sait que, donc 40 années plus tard, eh bien, les Romains vont détruire et la ville et le temple. Voilà. Caïphe prononce des paroles méchantes. Des paroles méchantes, c'est un opportuniste qui a un sens de la politique, qui aime le pouvoir et déclare que Jésus doit mourir pour que le Sanhédrin conserve son pouvoir et que la nation juive continue d'exister. Cependant, comme j'ai dit, Caïphe parle involontairement de la mort sacrificielle de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Pierre chapitre 2 verset 24, Dieu donne un sens plus profond à ses paroles. Ce que Caïphe pense faire, il pense que c'est la volonté de l'homme qui l'accomplit, mais en fait c'est la volonté de Dieu. Et on a vu que ce récit nous parle de deux personnes, ceux qui croient, verset 45, et ceux qui ne croient pas, verset 46. Et pourtant, Jésus ne donne qu'une option. Il dit à Marthe, crois-tu cela? Comme il dit aussi à tous ceux qui ont entendu sa parole ce matin, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et voyez, le Seigneur veut que nous croyions. Il nous invite à croire en lui. Verset 25, j'ai lu, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Verset 40 et verset 26, « Crois-tu cela? » Verset 40, aussi, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 20, verset 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est que Jésus est le seul qui est la résurrection et la vie. Mais il nous dit de placer notre foi en lui, de croire, d'avoir les regards fixés sur lui. Devant ce moment de drame que vivaient Marie, Marthe, Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Il attire son attention sur lui. C'est lui la consolation pour la vie aujourd'hui et pour l'éternité. C'est lui la résurrection et la vie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et il n'y a qu'une seule façon de se saisir de cette réalité, c'est de croire en lui. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Et nous allons prier pour terminer. Et puis nous prendrons un cantique. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et nous l'avons tous chez nous, dans notre langue, et nous pouvons tous la relire et entendre clairement les paroles que tu dis. Tu es la résurrection et la vie, et celui qui croit ne mourra pas. Et Seigneur, merci parce que nous avons nos pensées sur la mort, la vie, mais toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu dis la vérité. C'est en toi que nous devons placer notre confiance. C'est par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est des pécheurs que tu es venu sauver et non des justes. Et ce matin, je te prie que, comme pour Marthe et Marie, la foi de tes enfants soit affermie, que nos regards soient à nouveau fixés sur toi et sur cette résurrection, sur la vie éternelle que tu nous as donnée, une vie qui commence dès aujourd'hui et qui n'a pas de fin. Merci aussi, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant qui connaît nos besoins, qui retarde parfois ton intervention pour que nous puissions grandir davantage dans la foi, pour que nous puissions fixer nos cœurs davantage sur toi et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. En Jésus-Christ. Amen.